Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin,
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous sur RMC et sur RMC Story. Nous sommes le vendredi 19 juin, bientôt le week-end, oui, mais un week-end caniculaire. La barre des 40 degrés dépassée dans plusieurs villes de France et des conséquences en pagaille, trains supprimés, oraux du bac décalés dans l'Académie de Poitiers, des événements sportifs et culturels annulés. Comment faites-vous pour travailler dans ces conditions? Venez me le raconter au standard d'RMC et venez surtout interpeller le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, qui sera dans ce studio dans 10 minutes. Il vous attend. N'hésitez pas à venir l'interpeller. Avec ces températures, faut-il garder les écoles ouvertes? Nous passerons un coup de fil aux représentants des profs à 7h40. On a l'impression que dans les écoles, c'est un peu le bricolage pour tenter chacun de s'adapter. Et puis à 8h30, mon invité dans le face-à-face, c'est l'ingénieur spécialiste du climat, Jean-Marc Jancovici. Ne le manquez pas, Jean-Marc Jancovici, il réclame du pragmatisme et des investissements pour faire face au changement climatique. Ce week-end, c'est aussi la fête de la musique. Faut-il interdire le concert militant organisé par la France Insoumise? À 7h50, ce sera le débat d'RMC entre la voix de droite, Charles Consigny, et la voix de gauche, Cécile Duflot. Et puis on continue de jouer sur RMC. La prime Coupe du Monde a été gagnée hier. L'heureux chanceux, c'est Anthony qui a remporté, écoutez bien, 67 500 euros. C'était pendant le Moscato Show. Alors on remet une nouvelle prime en jeu et vous pourrez vous inscrire avant 9h ce matin. Restez bien à l'écoute. 6h59. Dans un instant, le journal de 7h. Et tout de suite, la météo, Lou Garnier. C'est donc la vigilance orange canicule qui s'étend aujourd'hui à 53 départements.
Oui, tout à fait. Ce matin, les minimales sont à la hausse. Il fait 16 degrés à Rennes, 18 à Clermont-Ferrand et jusqu'à 24 degrés à Nice. Les températures vont monter d'un cran cet après-midi. Il fera entre 35 et 38 degrés sur une large partie du pays, avec des pointes à 39 degrés comme à Nevers ou à Troyes. En parlant de cet après-midi, justement, on aura des averses orageuses entre la Picardie et les Flandres, ainsi que sur les reliefs du Jura, des Alpes et des Pyrénées, avec un peu de grêle par endroits, voire de fortes rafales. Ailleurs, le temps restera sec et ensoleillé. Un mot de demain, les températures baissent un petit peu au nord de la Loire avant de remonter dimanche. Le pic de chaleur est attendu lundi avec des pointes jusqu'à 40 degrés.
Il est 7h, excellent réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Merci d'avoir choisi RMC. Tout de suite, le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'ADN de Jérôme Barella retrouvé sur le corps de Liana, victime d'un viol selon les résultats d'autopsie. Un épisode étendu, durable et intense. Les mots de Météo France pour qualifier la vague de chaleur qui déferle sur le pays n'ont sans conséquence. Elles sont nombreuses à l'école pour les candidats au bac ou encore dans les transports. Et le Mexique, première équipe à se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe du Monde.
Du nouveau ce matin dans l'enquête sur la mort de Liana.
Deux semaines après la découverte de son corps dans un silo désaffecté du Gers, les résultats de l'autopsie ont été dévoilés. Et si on ne connaît pas les raisons de son décès, on apprend que la jeune collégienne de 11 ans a été victime d'un viol. Et le principal suspect de cette affaire se retrouve un peu plus dans le collimateur des enquêteurs, Julien Coudreau.
Oui, le profil biologique de Jérôme Barella a été retrouvé sur les parties intimes de Liana, ce qui permet d'établir, selon les enquêteurs, que la fillette de 11 ans a certainement été violée par le principal suspect mis en examen dans cette affaire. Des expertises complémentaires doivent permettre de déterminer les circonstances de ce viol ainsi que les causes de la mort de la jeune victime, même si, selon nos confrères de BFM TV, l'autopsie révèle aussi que Liana a été bâillonnée avec du scotch et que son corps porte des traces d'ecchymose, notamment sur la tempe gauche. Informés dès hier de ces résultats, les parents de la collégienne ont réagi par la voix de leur avocat. Face au pire pouvant arriver à un enfant et à des parents, leur colère n'a d'égal, je cite, que leur dégoût, fait savoir leur conseil.
Il faut rendre nos procédures plus efficaces, réagit de son côté Emmanuel Macron à l'affaire. Il était l'invité de France 2 hier soir, occasion pour le chef de l'État de rappeler aussi l'importance de respecter les mesures de vigilance face à la vague de chaleur qui frappe le pays, avec une première victime hier, un homme de 30 ans en arrêt cardio-respiratoire retrouvé sur une piste d'athlétisme du Val d'Oise, l'un des 53 départements placés en vigilance orange canicule ce matin. L'épisode sera intense et durable, prévient Météo France, avec un pic attendu dimanche ou lundi. On a déjà franchi la barre des 40 degrés hier à Montmorillon dans la Vienne. Ça va se poursuivre aujourd'hui. Comme à Dijon, il fait déjà plus de 20 degrés ce matin et Rachida a profité d'une journée de congé pour se lever tôt après une nuit étouffante.
Je suis sorti pour prendre l'air, ce qui est à commère, quoi. Ce matin, en sortant vers 5h30, il y avait un petit peu de vent, mais Il fait chaud, très très chaud.
La nuit, elle a été difficile?
Oui, très difficile. Ouais. À la maison avec ma femme, on n'arrivait pas à dormir. Malgré qu'on avait un petit ventilateur, quoi, une clim, eh ben, on a du mal à dormir. Je suis de la tête beaucoup, j'arrêtais pas de me retourner, droite à gauche, je me levais, je revenais pour boire de l'eau plusieurs fois. Moi, ma femme, effectivement, pareil. Le reste de la journée va être très compliqué. Je vais rester à la maison, fermer tous les volets et essayer d'avoir de la fraîcheur, quoi.
Un propos recueilli par Caroline Renaud ce matin à Dijon.
Et ne manquez pas, dans 10 minutes, dans ce studio sur RMC, le ministre du Travail répondra à mes questions, mais aussi aux vôtres, justement, sur cette capacité à s'adapter ou pas. Appelez-nous pour témoigner. Comment vous faites pour travailler? Est-ce que vous avez adapté vos horaires? Est-ce que vous avez adapté la manière dont vous travaillez, vos habitudes? Je vous attends au 32-16.
Coup de chaud aussi sur les rails, trafic un temps interrompu, gare de l'Est hier soir à Paris. Il y a toujours des retards au départ ce matin sur le RE, c'est la circulation qui a été coupée sur l'ensemble de la ligne hier soir, des trains arrêtés au beau milieu des voies Nicolas Genestière et des milliers de passagers livrés à eux-mêmes sans climatisation.
Après de longues minutes passées sous terre, des dizaines de passagers sortent du train en file indienne.
Attendez, j'immortalise le moment là, parce que franchement, on va pas me croire.
Quelques mètres plus loin, depuis la même rame, une autre voyageuse s'engage en bordure des voies.
On s'est débrouillé comme on pouvait, parce que fallait faire attention de bien rester sur le côté. Et puis bah, de pas non plus tomber dans le vide où il y avait les voies, quoi. Surtout du fait d'installation électrique qui est sur les voies.
Un peu moins d'un kilomètre de marche, selon elle, sans encadrement ni personnel pour les accueillir sur le quai. Dans un autre train, Génis s'est resté bloqué près d'une heure dans un wagon bondé sans climatisation sous le soleil.
Vraiment la chaleur, si vraiment vous étiez avec nous, c'était insupportable. On était très très serrés, on étouffait, on était tous collés les uns sur les autres.
Des passagers finissent par forcer les portes de la rame.
Il y avait des mamans enceintes, il y avait des mamans qui avaient des poussettes avec des petits bébés. Dès qu'ils ont vu la possibilité de sortir, ils sont directement sortis. Et c'était un soulagement pour tout le monde.
Tous ont regagné le quai à pied. Les sorties sur les voies sans accord du personnel sont strictement interdites, rappelle la SNCF, et retardent la reprise du trafic.
Plusieurs conséquences de cette chaleur. 71 trains corail supprimés. La circulation différenciée mise en place ce matin en Île-de-France. Des écoles fermées ou partiellement. Le report d'une semaine des oraux du bac prévu lundi et mardi dans plusieurs départements. Annulation également de plusieurs manifestations sportives prévues ce week-end. Festives aussi. Des concerts pour la fête de la musique ont été annulés. Ce sera le cas à Brive-la-Gaillarde ou encore Nanterre. Et quand les événements de la fête de la musique ne sont pas suspendus, le gouvernement appelle à la vigilance. Pas en raison de la chaleur, mais du risque de débordement dimanche soir. Message de fermeté, Maxime Cliérusa, envoyé aux préfets, police et gendarmerie par le ministre de l'Intérieur.
Oui, dans une note manuscrite, Laurent Nunez leur indique qu'aucun débordement, violence, dégradation et pillage ne saura être toléré. La priorité sera l'interpellation des auteurs, des directives justifiées par la délinquance d'opportunité, la consommation excessive d'alcool ou encore par les possibles violences urbaines en fin de soirée, des débordements qui, dit-il, pourraient être amplifiés par les matchs de la Coupe du Monde, rappelant sans les citer les violences lors de la finale de la Ligue des Champions le mois dernier. Certains maires et préfets n'auront d'ailleurs pas attendu ces consignes pour prendre des arrêtés. Dans le Calvados et l'Isère, le transport et la détention de liquide inflammable, de feux d'artifice ou encore de mortiers ont été interdits à Rennes. La mairie a même décidé de piétonniser le centre-ville historique dès 17h dimanche.
À retenir également ce matin, les pêcheurs du golfe de Gascogne qui vont devoir encore rester au port l'an prochain pour une durée d'un mois. Annonce du gouvernement afin de protéger les dauphins de captures accidentelles. C'est la quatrième année de rang que la mesure est reconduite. Elle concerne près de 300 bateaux de plus de 8 mètres. L'Iran a déposé un recours auprès de la FIFA en raison de restrictions qui lui sont imposées à la Coupe du Monde. Elle se poursuit avec un premier qualifié. Vous l'avez vécu cette nuit sur RMC, le Mexique qui rejoint les 16e de finale après sa victoire 1-0 face à la Corée du Sud. À retenir également le carton du Canada en ballotage favorable après sa victoire face au Qatar 6-0. Dans ce même groupe B, la Suisse a battu la Bosnie 4-1. Les Bleus ont profité d'une journée de repos hier avant de reprendre l'entraînement ce vendredi à 3 jours d'affronter l'Irak. Ce sera lundi soir, 23h. Ce sera là aussi sur RMC. Quelle équipe de France sur le terrain? Faut-il faire tourner? Didier Deschamps va devoir trancher. Il va aussi devoir trouver une place à Ousmane Dembélé. Décevant face au Sénégal, le ballon d'or, Valentin Germain n'affiche pas vraiment le même visage avec l'équipe de France qu'avec le PSG.
Oui, et comme un symbole, Ousmane Dembélé a été le premier joueur français à sortir contre le Sénégal après un match insipide, un seul tir, contré, du déchet. L'ancien international français Eric Dimeco s'interroge.
Si Dembélé n'arrive pas à s'exprimer, à apporter un vrai plus, je me demande s'il ne faudra pas ouvrir la concurrence. Et il a pas assez de stats et de matchs référence à l'équipe de France pour qu'on puisse lui donner un totem d'immunité.
7 buts en 60 sélections en bleu. Le dernier, il y a plus d'un an, loin de son statut de meilleur buteur avec Paris, où il joue dans l'axe à la mi-temps mardi. Le sélectionneur Didier Deschamps, déçu, l'a décalé à droite au profit de Michael Olise.
Je trouvais que de par son positionnement, il était trop haut et on avait un manque de lien. Et Ousmane a été bien meilleur aussi à droite.
Et Dembélé devrait rester sur ce côté. Ça ne pose pas de soucis selon le défenseur Malo Gusto.
Honnêtement, ça, je ne pense pas que ça devrait être une grande préoccupation. Chacun est très polyvalent, peut performer à beaucoup de postes. On sait qu'ils aiment bien permuter avec Michael. Je pense qu'on n'a vraiment pas à s'inquiéter.
L'Irak, adversaire supposé le plus faible du groupe, ressemble à l'équipe idéale pour retrouver de la confiance.
Et ce sera donc lundi 23h. Et puis notez le coup d'envoi des demi-finales du Top 14 ce soir 21h sur RMC. Le Racing 92 défie Toulouse. Là aussi, ce sera à vivre sur notre antenne.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. La moitié du pays en vigilance orange, canicule, 40 degrés attendus aujourd'hui dans le sud-ouest, du Poitou jusqu'au Val-de-Loire. Comment travailler dans ces conditions? Bonjour Jean-Pierre Farandou.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio avec nous. Vous êtes le ministre du Travail. Il faut adapter les conditions de travail pour protéger les salariés. Vous nous expliquerez comment, voilà votre parti pris dans un instant. Et puis je vous attends au 32-16. Vous travaillez peut-être dans le BTP, sur les routes, en plein air. Comment est-ce que vous faites face à cette vague de chaleur? Est-ce que vous avez adapté vos horaires? Est-ce que vous en avez discuté? Si vous êtes patron ou employé, appelez-nous au 32-16 pour témoigner et interpeller le ministre.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Vous êtes peut-être déjà au travail et déjà sous la chaleur. Travailleur du BTP, indépendant, qui travaille dehors ou sur des postes fortement exposés à la chaleur, eh bien il faut s'adapter. Bonjour Jean-Pierre Farandou.
Bonjour.
Vous êtes le ministre du Travail. Merci d'avoir choisi RMC ce matin. Que dites-vous à ceux qui nous écoutent, qui travaillent peut-être dans tous ces métiers exposés à la forte chaleur? À la fois à ceux qui travaillent et à leurs patrons.
Oui, exactement. Je veux m'adresser aux employeurs, d'abord, qui doivent bien sûr organiser les chantiers, en particulier dans le BTP ou dans d'autres secteurs où on travaille dehors. Je pense aussi à l'agriculture, hein, où les gens sont amenés à travailler à l'extérieur. Je pense aussi aux salariés qui doivent prendre des précautions. Les employeurs, ils ont des obligations. Depuis le mai l'année dernière, il y a un décret qui est sorti, qui est très clair. Au fur et à mesure des alertes météo, jaune, orange, rouge, les entreprises doivent prendre des mesures. Les mesures, c'est du bon sens. C'est déjà ne pas exposer les salariés aux heures les plus chaudes, donc ne pas hésiter à décaler les horaires de travail. Dans le BTP, par exemple, après l'émission ici en plateau, je vais voir un chantier qui a fait le choix intelligent, bien évidemment, travailler plus tôt le matin, arrêter de travailler aux heures chaudes et éventuellement reprendre plutôt fin d'après-midi ou début de soirée. S'il faut, on arrête les chantiers plus longuement. Et d'ailleurs, dans le BTP, il y a même une caisse. Hein, c'est-à-dire que les salariés, quand ils arrêtent de travail, ils sont rémunérés. Les entreprises du BTP se sont mises ensemble pour avoir une caisse qui permet de financer ces arrêts de travail qu'il faut décider quand il fait trop.
Et vous invitez, y compris d'autres secteurs, à s'inspirer de cette manière d'avoir fait?
Oui, parce que le premier bon sens, donc on évite les heures les plus chaudes. Bien sûr, tout ce qui est hydratation, il y a une image qui est très bonne. Hein. Il faut consommer encore plus d'eau, de l'eau fraîche même, en quantité, ne pas exposer.
Et ça, ils ont l'obligation de le faire. C'est-à-dire que c'est pas optionnel.
Non, c'est
lorsque la canicule, l'alerte canicule orange est déclenchée, les patrons doivent fournir de l'eau fraîche et une manière de s'abriter à leurs employés.
Ah oui, c'est une obligation qui est très très claire. On voit bien qu'il y a une proportion au fur et à mesure que l'alerte monte, c'est-à-dire que les conditions sont de plus en plus intenses, parce que c'est un vrai risque. Hein. On parle d'un vrai risque professionnel, homogène à d'autres risques, qui peut provoquer des malaises, qui peut provoquer des accidents et même parfois des drames. Donc on est sur quelque chose de sérieux en matière de santé professionnelle.
C'est vraiment une forme d'alerte que vous lancez ce matin en disant ça n'est pas optionnel, c'est une obligation, il faut le faire. Est-ce qu'il y aura des contrôles? Est-ce qu'il y aura des sanctions?
Oui, d'ailleurs, on a renforcé les sanctions. Il y a une loi qui est passée il n'y a pas très longtemps, qui a été promulguée il y a quelques jours et validée par le Conseil constitutionnel pas plus tard qu'hier. Une loi sur la fraude qui dit qu'une entreprise qui ne fournirait pas le fameux document unique d'évaluation des risques qui permet d'organiser la prévention pour la santé des travailleurs avec un chapitre particulier autour de la chaleur intense serait sanctionnée. Et les inspecteurs du travail vont bien sûr renforcer leur contrôle sur cette thématique, particulièrement dans cette période de canicule.
Et si on n'a pas les moyens de permettre à ceux qui travaillent de s'abriter, est-ce qu'il faut parfois se dire pendant 3 jours, on met tout le monde, pas au chômage technique, mais comme vous le disiez, avec une caisse pour les indemniser, mais on préfère ne pas prendre ce risque? Est-ce qu'il faut en arriver là?
Trois jours, c'est peut-être là encore, il faut regarder. Pour le moment,
la vague de chaleur, en tout cas, on sait qu'elle dure jusqu'en début de semaine prochaine au minimum.
Bien sûr, pendant ces périodes-là, il faut prendre des mesures, mais peut-être pas l'arrêt total sur toute la journée. On voit bien que le matin, il y a encore des températures qui permettent de travailler, pareil le soir. Donc, c'est pas l'arrêt total sur une période de plusieurs journées. C'est l'adaptation des horaires de travail qui peut aller jusqu'à l'arrêt des chantiers pendant ces périodes particulières, qui, je le redis, sont suivies par Météo France. Et ces alertes météo, elles guident les dirigeants d'entreprises qui ont des plans de prévention adaptés selon la couleur de l'alerte météo.
Jean-Pierre Farandou, vous êtes le ministre du Travail, mais vous avez avant dirigé la SNCF pendant 5 ans. Vous l'avez entendu, on nous dit effectivement que dans ces moments-là, précisément, il faut utiliser aussi les transports en commun. Et il y a une petite centaine, près de 70 trains qui sont déjà annulés pour les jours qui viennent, notamment sur la ligne Paris-Limoges et Paris-Clermont. Ça veut dire quand même qu'on ne les a pas anticipés suffisamment alors qu'on savait que ça venait, ces moments, ces pics de grande chaleur.
Moi, je ne veux pas me substituer aux dirigeants de la SNCF, je l'ai été, je peux juste vous dire que ce sont des mesures là aussi de précaution. On parle de lignes où ce sont des matériels très anciens qui circulent. Les neufs arrivent vite, je crois. Les neufs arriveront en début l'année prochaine. En attendant, ces vieux matériels supportent mal la chaleur, notamment tout ce qui est équipement de climatisation. Ils n'ont pas été, comme ils sont vieux, ils ont été calés pour des températures autour de 30 et 35 degrés. Parce qu'à l'époque, ça ne dépassait pas 35 degrés. Maintenant, on dépasse les 35. Donc, plutôt que le matériel tombe en panne, infligeons aux voyageurs vraiment des situation insupportable. Il faut peut-être avoir la sagesse, effectivement, de réduire la circulation des trains. Je crois que c'est ça, c'est une mesure de précaution pour la santé des voyageurs.
On parlait des travailleurs en plein air, il y a les marchés. Nathalie, vous faites partie de ceux qui sont sur les marchés et vous êtes en Bretagne. Alors peut-être qu'on peut espérer qu'il fait un peu frais et encore. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Vous vendez sur les marchés, on va en dire ce que vous vendez, de quoi se protéger précisément, hein, c'est ça?
Exactement. Moi, je vends des chapeaux anti-UV.
Ok, donc vous avez presque intérêt à ce qu'il fasse chaud. Je ne veux pas vous mettre en difficulté, Nathalie, mais...
C'est ça. Mes collègues, quand mes collègues voient la température sur les marchés, ils me disent, mais ça, c'est ta journée aujourd'hui. Donc là, voilà. Ça va être ma semaine même.
mais cela dit, ça reste très difficile, non, de travailler sur les marchés, précisément, dans ces moments de grande chaleur. Comment ils font aussi vos collègues? Je pense notamment, alors vous vendez des chapeaux anti-UV, mais j'imagine que vous n'êtes pas loin des bouchers, des rôtisseries. Comment ils font?
Exactement. Ils sont en général protégés également. La clientèle arrive un peu plus tôt. Et donc, en général, on termine aussi un peu plus tôt que d'habitude. En général, vers midi, on sent que les clients...
ne sortiront pas.
Ont envie de rentrer chez eux. Et donc, du coup, on termine un peu plus tôt que les autres jours.
Merci Nathalie. Une question, Jean-Pierre Farandou, sur justement ces questions d'horaire. On sait qu'au milieu de la journée, quand on va en Espagne, quand on va au Portugal, les horaires de travail sont très différents. Ils commencent plus tôt, ils retravaillent dans l'après-midi, mais il y a une habitude de rentrer faire la sieste chez soi. Est-ce que c'est un conseil que vous donnez à ceux qui nous écoutent?
Oui, c'est intéressant effectivement de regarder comment ça se pratique culturellement, historiquement, dans des pays comme l'Espagne, notamment l'Espagne, le sud de l'Espagne, il fait très chaud, comment ils pratiquent. Effectivement, on voit bien que l'idée est toujours la même, c'est se protéger pendant les horaires les plus chauds. Alors eux, c'est vraiment installé dans leur rythme de vie. C'est l'idée dans les entreprises, on ne le fait pas dans la société en général.
Est-ce que notre société doit s'adapter?
Peut-être, si vraiment on est destiné à avoir des horaires andalous de manière structurelle, il faut peut-être faire comme les andalous. Mais effectivement, il y a un sujet de société, comment la société globalement s'organise. Et ensuite, tout de suite et sans attendre, dans le monde du travail, il faut prendre des mesures de précaution pour protéger la santé des travailleurs.
Il y a l'urgence, merci. Jean-Pierre Farandou, vous êtes ministre du Travail. Hier, on parlait des tests salivaires et je recevais votre consoeur, la porte-parole du gouvernement, qui disait qu'elle n'avait pas encore fait le test, mais que le gouvernement voulait montrer l'exemple. Exemple, en faisant ces tests pour prouver qu'on ne consomme pas de drogue. Est-ce que les entreprises doivent suivre l'exemple?
Je pense sur la drogue, moi l'idée est simple, c'est que la drogue ne doit pas avoir sa place dans l'univers du travail, voilà, donc c'est simple. Il y a déjà aussi des possibilités légales qui existent, puisque dans les règlements intérieurs, les entreprises qui ont des emplois de sécurité, c'est le cas de SNCF par exemple, vous imaginez bien, un conducteur de train, un aiguilleur, ne doit pas être sous l'emprise de la drogue, ça serait une prise de risque énorme en matière de sécurité des trains. Donc là, l'employeur a le droit, et j'ai presque dire le devoir, de faire des tests, parce qu'il faut montrer effectivement qu'on ne veut pas que les salariés arrivent sous l'emprise de la drogue.
Est-ce qu'il faut élargir ça au monde du travail de manière globale, y compris hors question de sécurité à proprement parler?
C'est une bonne question. En tout cas, moi, je suis prêt à travailler là-dessus avec les partenaires sociaux. Je pense qu'effectivement, envoyer un message très clair qui dirait, voilà, il n'y a pas la place de la drogue dans le monde du travail, on n'en veut pas. Ça a été le cas avec l'alcool. Vous savez, la génération d'avant a connu des problèmes de l'alcool au travail. Il n'y en a plus. On a réussi à l'éradiquer. Je pense que de la même manière, il faut une volonté d'éradiquer la drogue dans le monde de l'entreprise.
Ça veut dire des tests inopinés? Ça veut dire, si jamais on se rend compte qu'il y a des consommateurs, il faut pouvoir les licencier?
D'abord, il faut regarder une image de prévention. Vous savez, moi, dans le plan de santé au travail que je viens de lancer, il y a de la santé mentale. La santé mentale, c'est une des causes amont. Moi, je voudrais aussi que sur ce sujet-là, on regarde les causes racines, les causes amont, avant d'envisager des mesures plus radicales. Regardons pourquoi d'abord et traitons cette partie-là.
Merci beaucoup Jean-Pierre Farandou d'avoir répondu à mes questions. Ministre du Travail, je vous laisse partir justement sur un chantier, voir un chantier qui a adapté les horaires à cette canicule. 7h20 et c'est Arthur Chevalier qui est avec nous. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, la France a fait fermer 9 stations de police clandestines chinoises depuis un an. En Chine, espionnage et pouvoir sont liés.
Eh oui, le Parti communiste chinois a les plus gros services secrets du monde et leur technique, Apolline, dépasse tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous nous le dites dans un instant, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. On se retrouve dans 60 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
7h22, l'histoire qui éclaire notre actualité comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Arthur, une enquête du journal Le Monde révèle que depuis début 2026, le contre-espionnage français a fait fermer 9 stations de police clandestines sur le territoire français, mais au service de la Chine.
Oui, c'était de véritables commissariats fantômes hein, qui étaient notamment chargés de contrôler les ressortissants chinois sur notre territoire. Bon, en fait, on va être clair, hein, c'était pour les surveiller. Et attention, leur mission ne s'arrêtait pas là, puisque ces agents chinois avaient aussi pour mission de renvoyer de force à Pékin tous les dissidents qui auraient pu se planquer en France. Bref, c'est ce qu'on appelle de l'ingérence étrangère en bonne et due forme.
La Chine est particulièrement connue pour la qualité de ses services secrets.
Ce sont même parmi les meilleurs du monde. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Chine, les services secrets, c'est pas seulement une partie de l'État, c'est l'État lui-même. Contrôler la population, c'est la base du travail du Parti communiste chinois. Pour lui, gouverner, ça veut dire surveiller. Et la structure qui s'occupe du renseignement, ça s'appelle le Guanbu. Alors le Guanbu, c'est un mot chinois évidemment, et ça veut dire le ministère de la sécurité de l'État. Ça a été créé en 1983 par un homme qui s'appelait Deng Xiaoping. C'était le successeur direct de Mao Zedong à la tête de la Chine.
Ses effectifs sont impressionnants.
Oui, c'est colossal, hein, puisqu'on estime qu'au total, il y a plus de 200 000 agents qui travaillent pour ce ministère de la sécurité de l'État. Et pour se rendre compte de cette taille, Apolline, eh bien, il suffit de les comparer par exemple aux services secrets d'autres pays. La CIA, c'est à peu près 20 000 agents. La DGSE, donc le service secret français, c'est 7 500. La Chine, 200 000.
J'imagine que dans l'histoire, les espions chinois se sont quand même fait prendre.
Alors oui, c'est assez rare, mais ça arrive. Bon. Ça arrive et il y a un cas très célèbre. C'est celui de Shu Junwang. Alors Shu Junwang, c'est un homme qui arrive aux États-Unis en 1994. Il devient professeur d'université, il écrit des livres, il défend la liberté, la démocratie. Tout va bien, ça devient rapidement une figure mondiale de la contestation à la dictature. Il donnait aussi des conférences dans le monde entier et forcément, il fréquentait plein de dissidents chinois qui du coup lui racontaient tout ce qu'il faisait.
Et finalement, on a appris que c'était une taupe, oui, un espion.
C'est insensé, mais effectivement, le FBI va découvrir le poteau rose. À la fin des années 2010, Shu Jun va de plus en plus en Chine pour des raisons un peu inexplicables. Du coup, le gouvernement américain se met en alerte, se met à regarder ce qu'il fait de près et on apprend que toutes les informations qu'il collectait auprès des dissidents, eh bien, il les balançait directement au pouvoir chinois via des messageries cryptées. Du coup, en 2024, il a été reconnu coupable d'espionnage aux États-Unis, même s'il plaide son innocence.
Incroyable. L'enquête donc de nos confrères du Monde est à retrouver en ligne sur ces stations de police sur le sol français. Merci Arthur Chevalier. Arnaud Demange.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Oula. Salut Arnaud. À 8h30, je reçois le spécialiste du climat, Jean-Marc Jancovici.
Bah oui, parce qu'à cause de vous tous, là, c'est la canicule.
Voilà.
Non, alors je dis vous tous autant au sens où c'est une responsabilité collective.
Oui.
Le réchauffement climatique, je sais bien que Victor Pourchet n'est pas le seul responsable, malgré ses trajets en avion pour Mykonos avec des copines influenceuses. Et je m'inclus dedans, Apolline, hein, vraiment. Hein, je regrette, moi, les vacances à Dubaï en 2011. Après, je pouvais pas savoir que ça allait tuer plein de nos personnes âgées. Bon, ceci dit, Arthur Chevalier me disait, t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est toujours ça en moins d'auditeurs pour RTL. Oui, évidemment,
faut positiver.
C'est moi qui dis ça.
Bah, les jeunes sont chez nous.
Pourquoi c'est pas Victor? Alors, ce qui est embêtant, c'est que ceux qui nous quittent ne sont pas forcément remplacés parce que par cette chaleur, on n'a pas envie de faire des rencontres. On se sent, tu sais, moite, ouais, on est claqué, on n'a pas envie de danser à la fête de la musique et de faire des câlins sous une couette. Faudrait adapter les rencontres. Tu veux rencontrer les femmes les plus froides de ta région? Envoie Glagla au 8-12-12 et découvre les femmes frigides les plus proches de chez toi. Elles n'ont aucune envie de toi et mettront une ambiance polaire dans ta chambre et dans ton lit. Alors tout de suite, découvre nos frigidounettes.
Bonjour, je m'appelle Colette, je suis professeure de latin en retraite et j'ai toujours trouvé extrêmement vulgaire les choses de la bagatelle. Une fois, j'ai fermé les yeux, j'ai pensé à mon pays pour concevoir mon enfant qui est depuis dépressif et Premier ministre.
Merci Madame Le Cornu.
Oh non.
Mais il y a la version femme, hein, évidemment, oui. Bien sûr, les hommes les plus froids de ta région, tout ça. Mmh. Bonjour, je m'appelle Basile et tu cuisines moins bien que ma maman. T'en veux pas un rendez-vous. Bref, le climat est suffocant et ça va être pire ces prochains jours.
L'été sera chaud, l'été
l'été sera très très chaud. Et on est, vous avez vu Apolline, on n'est que en vigilance orange. Qu'est-ce qu'il faut pour la vigilance rouge? C'était un volcan en éruption place de la Concorde. Heureusement, donc on a Jean-Marc Jancot.
J'ai l'image, oui, j'ai l'image.
Comme invité, c'est l'invité idéal en cas de canicule, Jancot. Jean-Marc Jancovici, bonjour. La situation est-elle si grave que ça? Oui, alors, un système physique s'est mis en place. On va avoir des étés plus chauds, ce qui va engendrer une crise économique, une crise sanitaire, probablement des flux migratoires plus importants et donc des guerres. Et on n'aura pas les moyens de tout régler et donc on va tous crever.
Vous le faites très 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 bien.
Merci.
Et ben voilà, c'était
vous
super.
Vous avez bien refroidi l'ambiance, Jean-Marc Jancovici. Vu la chaleur, il faudrait même lui proposer une chronique quotidienne. Oui. Et oui, je le fais très bien. Merci.
Ah, vous le faites très, oh là là, très, tout très à l'heure. Merci Arnaud de Manche. Il est 7h27 sur RMC et RMC Story. Évidemment, dans un instant, le journal et la météo. À tout de suite. 7h29, la canicule, Lou Garnier.
53 départements placés en alerte orange canicule par Météo France aujourd'hui. On sort d'une nuit très chaude, notamment dans les grandes villes. Il a fait plus de 20 degrés en région parisienne, en Alsace, en région lyonnaise et dans le sud-ouest. Ce matin, il fait 18 degrés à Angers, 19 à Reims et au Havre et jusqu'à 25 degrés dans le sud de la Corse. Alors cet après-midi, les températures restent très élevées. Il fera 36 degrés à Nancy et Dijon, 38 à Bourges et jusqu'à 39 degrés à Melun. Demain, on aura des averses orageuses sur une bonne moitié nord du pays. Et puis une petite baisse des températures au nord de la Loire notamment. La calmie sera de courte durée. Hein. Les températures remontent dimanche. La barre des 40 degrés devrait être atteinte dans le sud-ouest jusqu'au Poitou et au Val-de-Loire.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une chaleur irrespirable qui continue de s'étendre en France. Les oraux du bac sont reportés d'une semaine dans l'académie de Poitiers. On le redoutait depuis la découverte de son corps. La petite Liana a été victime d'un viol. Les premiers résultats de l'autopsie ont été dévoilés. Et puis Thomas Ramos, forfait pour la demi-finale du top 14 ce soir contre le Racing. Un doute de plus pour le Stade Toulousain, pourtant champion ces trois dernières années.
Les établissements scolaires s'organisent face aux fortes chaleurs.
Comment faire cours quand il fait plus de 30 degrés dans la classe? À Tours, à Sens, les écoles vont fermer cet après-midi. La quasi-totalité des autres resteront ouvertes. Des établissements scolaires qui adaptent leur emploi du temps. Celui du bac est bousculé dans l'académie de Poitiers. Les oraux prévus lundi et mardi sont reportés d'une semaine, Bérangère Bocquillon.
Oui, les 4500 élèves qui devaient passer leur grand oral du bac lundi et mardi après-midi dans les départements de Charente, Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne vont avoir une semaine de plus pour réviser. Ils passeront finalement leur grand oral le matin, les lundis 29 et mardi 30 juin. Le rectorat de Poitiers explique que l'académie sera particulièrement touchée par la canicule et que ces départements ne sont pas habitués aux grandes chaleurs. Pour le moment, aucune autre académie n'est concernée par un report des épreuves du bac. Dans celle de Limoges, où tous les établissements sont centres d'examen, il sera facile de s'organiser pour choisir les salles les plus fraîches, d'après le rectorat. À Paris, aucune épreuve du bac général n'était prévue lundi ou mardi.
À partir de midi, 53 départements en vigilance orange canicule. Hier, la journée a encore été suffocante. Un homme de 30 ans est mort sur une piste d'athlétisme dans le Val d'Oise. Emmanuel Macron appelle à une grande vigilance. Ça a aussi été compliqué pour des passagers du RER E à Paris. Restés coincés dans la rame en pleine chaleur hier, le trafic a repris tard dans la soirée après plusieurs heures d'arrêt au départ de la gare de l'Est à cause d'une panne d'électricité. La SNCF anticipe par ailleurs des pannes de climatisation dans ses trains intercités de 71 trains supprimés jusqu'à lundi sur le Paris-Toulouse, le Paris-Clermont et le Bordeaux-Marseille. Et malgré ces hautes températures, il faudra bien garder ses vêtements à Narbonne. Pas question de se promener torse nu ou en maillot de bain. C'est passible de 150 euros d'amende selon un arrêté pris par la mairie. Et les habitants sont plutôt d'accord, Martin Juret.
Dans les rues de Narbonne, les habitants plébiscitent cet arrêté.
Pour moi, c'est du respect, du savoir-vivre envers tout le monde. Il faut avoir des tenues adéquates et c'est normal.
C'est vrai que sinon, après, c'est la foire, on ferait n'importe quoi.
Et ce n'est pas Alexandra, gérante d'une boutique de prêt-à-porter, qui dira le contraire.
Il y en a pas mal qui arrivent dans le magasin en maillot, avec juste le haut du maillot, ou pieds nus. Ça nous est déjà arrivé de voir des gens pieds nus devant le magasin.
Pour Alexandre Sylvestre, président du syndicat des restaurateurs, cette mesure était nécessaire.
On est très content de cet arrêté municipal. Si la mairie en plus s'en charge, nous, ça nous fait du bien parce que ça nous évite de faire la police et de rappeler à l'ordre quand c'est vraiment limite.
C'est la police municipale qui est chargée de faire respecter l'arrêté. Le maire de Narbonne, Bertrand Malquier, rappelle que les agents doivent demander par exemple à celui qui se balade torse nu de mettre un vêtement.
S'il n'en a pas aussi
refuse de remettre son t-shirt, on passe de la pédagogie à la sanction. Et là, on dresse le procès verbal avec une amende qui peut aller jusqu'à 150 euros.
Depuis le début de la semaine, une personne a été verbalisée. Il y en avait eu 25 l'an dernier.
Reportage de Martin Juret avec Jean-Wilfried Forquès. Il est 7h33. Les premiers éléments de l'autopsie de Liana ont été dévoilés hier. La collégienne a été victime d'un viol. C'était particulièrement redouté depuis la découverte de son corps il y a 2 semaines dans un silo à grains près de Fleurance dans le Gers. L'ADN de Jérôme Barella a été retrouvé sur des zones intimes de Liana. Les causes de sa mort ne sont pas encore déterminées, mais des ecchymoses ont été retrouvées sur son corps, notamment sur sa tempe. La petite fille a également été bâillonné par du scotch. Réaction des parents par la voix de leur avocat. Leur colère n'a d'égal que leur dégoût, dit-il. Réaction aussi d'Emmanuel Macron, alors que le suspect était visé par plusieurs plaintes.
Il faut mesurer aussi qu'on demande à nos forces de plus en plus et qu'il y avait un continent caché. On a libéré la parole. Moi, je voudrais simplement vous rappeler que quand je suis élu, dans nos prisons, 7% des gens étaient détenus pour des violences sexuelles et sexistes. Aujourd'hui, c'est 3 fois plus. Donc ça veut dire que oui, il y a encore des dossiers en souffrance. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont été arrêtés. On vit tous devant un sentiment de révolte face à ce qui peut être fait, parce que toucher un enfant, c'est la pire des choses. On ne doit jamais s'habituer. On doit toujours s'indigner. Mais cette indignation ne doit pas signifier l'impuissance, et elle ne doit pas signifier la vindicte.
Emmanuel Macron qui disait également hier soir ne pas croire que la guerre en Iran soit totalement terminée. Eh bien, les négociations qui devaient démarrer ce matin en Suisse après la signature de l'accord avec les États-Unis sont reportées, annonce le gouvernement suisse.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
La Coupe du Monde qui a déjà son premier qualifié pour les 16e de finale. C'est le Mexique qui décroche son ticket après sa victoire 1-0 contre la Corée du Sud. Cette nuit, un autre pays hôte, le Canada, a étrié le Qatar. Victoire 6-0. Un match nul un partout entre la République tchèque et l'Afrique du Sud. Et puis la Suisse a renversé la Bosnie 4-1. Cette nuit, deuxième match du Brésil contre Haïti. Toujours sans Neymar, hein, qui se remet de sa blessure au mollet. En rugby, les demi-finales de Top 14, ça commence ce week-end à Marseille. Toulouse Racing pour ouvrir le bal, les Toulousains premiers de la phase régulière. Pourtant, ils ne sont pas forcément favoris, Romain Asselin.
Oui, la dynamique interpelle. 2 victoires, 3 défaites depuis fin avril. Il y a aussi cette élimination dès les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Le forfait ce soir de l'arrière international Thomas Ramos, si souvent décisif en phase finale. Mais tout cela n'empêche pas le manager toulousain Hugo Mola de garder la tête froide.
Je vois que l'inquiétude plane autour du club, de nous, de la performance. C'est la première fois que, en l'occurrence, on est capable d'aller mettre des performances assez marquantes à l'extérieur. Donc, continuez de douter de nous.
Son homologue du Racing, Patrice Collazo, lui, ne se laisse pas bercé par cette petite musique qui dit Toulouse moins fort que d'habitude.
Ça, c'est vous qui l'avez dit, hein. C'est les médias qui ont dit ça. Si on comptabilise tout, c'est quand même des fossoyeurs, hein, quand même. Donc bon, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont au rendez-vous des phases finales chaque année. Ils ont un taux de réussite sur les finales de 100%. Quand ils jouent une finale, ils la perdent jamais.
Un Racing d'autant plus méfiant que Toulouse retrouve enfin sa star, Antoine Dupont. Il est titulaire après 6 semaines d'absence. François Cros, son coéquipier.
Ben Antoine est un de nos meilleurs joueurs, donc forcément c'est toujours un avantage quand il peut jouer avec nous. Et on espère qu'il fera encore une belle prestation, pardon.
Il y a 3 ans, Toulouse avait corrigé le Racing en demi-finale. Victoire 41-14.
Toulouse Racing, coup d'envoi ce soir 21h05, ce sera à vivre sur RMC.
Et puis le Quintet, Vincennes ce soir 20h15.
La Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori. Le numéro 6, Yenis de Barbray, l'outsider. C'est le numéro 18, Iggy Rock, le 6 et le 18.
C'était le journal de Clara Gabi et puis il y a le Quintet, mais il y a aussi la prime de match. Mais oui, parce que c'est le moment, vous l'entendez. Tous ces euros qui défilent. C'est le moment de jouer pour gagner votre prime de match sur RMC. Figurez-vous qu'hier, la prime de match, elle était de 67 500 euros. Et elle a été gagnée. Anthony a gagné 67 500 euros. Il avait été tiré au sort pendant le Moscato Show. Dès lundi, c'est reparti. Nouvelle prime de match. Et donc, vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour remporter la prime de match. Vous envoyez but au 7-32-16. But au 7-32-16, c'est le moment, c'est maintenant, il est 7h38 et vous avez 10 minutes pour vous inscrire.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Les oraux du bac reportés pour 4500 terminales dans l'académie de Poitiers. Des écoles et des collèges qui ferment ou qui incitent les parents à garder leurs enfants à la maison. Coup de chaud sur l'éducation nationale. Bonjour Jean-Rémy Girard. Vous êtes le représentant des profs. La France n'est pas au niveau face aux vagues de chaleur à répétition. Voilà ce que vous nous dites dans un instant. Et puis n'hésitez pas, vous aussi qui nous écoutez, vous êtes peut-être professeur ou tout simplement parent. Appelez-nous pour nous dire comment ça se passe chez vous. Le 32-16 vous est ouvert. 7h38.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h42 et c'est 40 degrés qui sont attendus aujourd'hui. L'école suffoque. Bonjour Jean-Rémy Girard, vous êtes le président du SNALC, le syndicat des enseignants de la petite section jusqu'au lycée. Des pics de chaleur historiques à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la semaine prochaine. Les écoles et les collèges tentent de s'adapter, certains ferment, les oraux du bac sont décalés dans l'académie de Poitiers. Est-ce qu'on a suffisamment anticipé ou est-ce qu'on bricole ?
On bricole, Apolline de Malherbe, puisque l'an dernier, on avait à peu près la même situation, à peu près à la même époque. On voit qu'un an après, il ne s'est rien passé de nouveau. On est dans les mêmes conditions, il fait les mêmes températures, il fait même plus chaud dans nos salles de classe. Et on n'a pas de solution très concrète, à part effectivement de devoir décaler, reporter, fermer, parce que notre bâti scolaire n'est pas adapté à ces chaleurs.
Le bâti scolaire toujours pas adapté, et ça j'ai l'impression effectivement que année après année, à chaque fois on dit il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, mais les chantiers ne sont pas lancés. Il y a un guide ministériel qui vous recommande de boire de l'eau quand il fait chaud, et puis on a l'impression que chaque établissement s'adapte, d'abord parce qu'ils n'ont pas la même tutelle. Pour les écoles c'est la mairie qui décide, pour les collèges c'est le préfet. Est-ce qu'il y a un manque de lisibilité chez vous ?
Il y a un manque de lisibilité, et puis il y a surtout un problème de prise de décision et aussi de financement. C'est-à-dire que nous, notre employeur, c'est l'État qui doit veiller notamment à notre santé, à notre sécurité.
Quand vous dites nous, c'est les professeurs.
Ce sont les collectivités locales.
Voilà.
Je parle, de professeurs.
Les profs, c'est l'État, le bâti, c'est la collectivité locale.
C'est ça. Donc ça fait des jeux de ping-pong absolument merveilleux où les uns disent on n'a pas suffisamment d'argent, l'autre dit oui mais c'est pas notre responsabilité et finalement il se passe rien.
Certaines décisions ont été préfectorales, hein. C'est le cas par exemple pour ces oraux du bac français qui ont été décalés dans l'académie de Poitiers. Et puis on a l'impression que chaque école s'adapte au cas par cas, conseille aux parents s'ils le peuvent de venir chercher leurs enfants l'après-midi, notamment pour les deux premiers jours de la semaine prochaine. On a entendu ça dans un certain nombre d'écoles. Mais c'est vraiment, j'allais dire, non seulement au cas par cas, mais surtout en fonction de ce que peuvent faire les gens, quoi.
Oui, c'est en fonction de ce que peuvent faire les gens, c'est en fonction des prises de décision des préfets, éventuellement des maires à l'école primaire, parfois même des chefs d'établissement en collège et en lycée, mais en réalité, on se rend bien compte qu'on n'est pas dimensionné pour gérer cette vague de chaleur et que d'ailleurs renvoyer les élèves chez eux, mais les parents travaillent, donc c'est pas chez eux la plupart du temps, c'est pas une solution viable. Or, là, on n'est pas dans quelque chose d'exceptionnel. Hein, à l'avenir, ça va se reproduire très très régulièrement, les vagues de chaleur que l'on connaît. Donc, il va falloir à un moment réellement se dire, là, il faut changer structurellement le fonctionnement de l'école, les locaux, la climatisation.
Moi,
j'ai des réunions au ministère, les salles sont climatisées. Hein.
C'est ce que j'allais vous dire.
Pourquoi, les collègues,
pourquoi la clim, c'est une des questions que je poserai d'ailleurs à Jean-Marc Jancovici, qui sera mon invité à 8h30, mais au fond, les transports, pour la plupart, sont climatisés, les ministères sont climatisés, les musées sont climatisés, un certain nombre de bureaux sont climatisés, et pourquoi chez effectivement les particuliers, ce serait une telle souffrance. Souffrance d'ailleurs que les enfants vivent dans leur corps. Vous avez entendu une auditrice ce matin, Victor ?
Ce matin, c'est Julie qui nous a appelé au 32-16 pour nous dire qu'hier, elle avait été contrainte d'aller chercher son enfant en primaire. Pourquoi ? Parce qu'il a vomi, parce qu'il a eu un coup de chaud. Et ça a été pas que le cas pour lui, mais aussi pour un de ses camarades. Et elle nous disait, le dicteur n'a pas reçu de directive.
Alors, il y a évidemment ceux qui travaillent en plein air, il y a les plus jeunes, et puis il y a ceux qui travaillent en restauration. Jenny nous appelle depuis l'Hérault. Bonjour Jenny.
Oui, bonjour.
Jenny, vous êtes chef de cuisine. Ça va, vous tenez le coup ?
Ah ben, il va commencer à faire très chaud. L'an dernier, pendant la canicule, on avait mesuré 56 degrés auprès des plants de chat dans la cuisine.
Donc, 56 degrés auprès des plants de chat dans la cuisine. Comment vous vous adaptez, Jenny? Comment vous avez réussi à survivre?
Eh ben, on boit beaucoup d'eau et puis on se met des torchons au frais, mouillés pour se rafraîchir, mais c'est très très chaud.
Et il n'y a pas, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de moyen de toute façon de baisser la température.
Non, chez nous, non, les ventilateurs c'est interdit et puis les clims, non, c'est pas trop possible.
C'est pas trop possible. Vous en parlez avec vos collègues?
Je suis chef de mon restaurant, donc on n'a pas la possibilité d'installer des clims, c'est ouvert, voilà.
C'est dur. Franchement, oui. On pense à vous, Jenny. Vous avez raison. Il faut aussi penser à ceux qui travaillent en intérieur. On parlait depuis ce matin de ceux qui travaillent en extérieur, mais ceux qui travaillent en intérieur. Je parlais aussi de ceux qui travaillent dans des rôtisseries ou sur les marchés. Merci Jenny et bon courage à vous. Il est 7h47 et je suis entourée parce qu'ils sont rentrés dans ce studio. Cécile Duflo, la voix de gauche. Bonjour Cécile.
Bonjour Pauline.
Charles Consigny, la voix de droite. Bonjour Charles.
Bonjour.
Et cette question, est-ce qu'on peut faire un meeting concert le soir de la fête de la musique, ce concert militant d'LFI qui devait avoir lieu place de la République, qui a été interdit par la préfecture. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux?
On le dit maintenant.
Non, mais un mot.
Je soutiens pleinement la préfecture dans cette démarche pleine de sagesse.
Et vous, Cécile?
Ils ont tort.
Ils ont
évidemment tort. L'art, c'est la provocation.
Ça promet ce débat.
Et l'arrêt politique.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h49, dans un instant le débat du vendredi, mais d'abord le bonus. Victor, on se réveille ce matin avec un nouveau titre d'Angèle.
Et au cas où ce ne serait pas assez clair, ce titre s'appelle « Dis-le ». Vous allez vite le retenir parce que la chanteuse belge le répète 83 fois dans le morceau.
Dis-le que tu te sens seul, dis-le que t'es fatigué, dis-le pourquoi t'es pas bien, dis-le pourquoi c'est pas rien, dis-le plus fort.
Alors oui, c'est une chanson, mais c'est aussi un appel à s'affirmer, un appel à libérer sa parole. Ça nous rappelle par exemple son titre « Balance ton quoi ». Cette chanson-là, elle a des sonorités électro, c'est sa nouvelle direction. Comme dans ce titre, What You Want, en collaboration avec le groupe Justice, autre titre dévoilé il y a quelques semaines et autre extrait d'un futur album qui sortira à la rentrée.
RMC, Apolline Matin,
le débat.
Voix de droite, Charles Consigny. Voix de gauche, Cécile Duflo. Bonjour à tous les deux. Et on en débat comme chaque vendredi, la droite et la gauche. Avec ce matin cette question. La justice qui doit étudier un recours déposé par la France Insoumise. Les Insoumis qui contestent l'annulation par la préfecture de police de Paris de leur concert militant prévu dimanche pour la fête de la musique. Un concert qui pourrait créer, je cite, des troubles à l'ordre public. Voilà l'un des arguments de la préfecture. Fallait-il interdire ce concert, Charles?
Ce que dit la préfecture, c'est que ce concert de la France Insoumise est susceptible de générer des violences eu égard aux personnes qui viendront y assister, etc. Et la préfecture semble considérer la France Insoumise comme un parti générateur de violences. J'avoue que je trouve ça assez amusant, à vrai dire. Je crains qu'il ne soit de bonne foi. C'est-à-dire, je crains que la préfecture ne fasse pas ça pour des raisons politiques, mais bien pour des raisons d'ordre public, parce que elle a peur de quelque chose qui dégénérerait place de la République. Et donc moi, qui par ailleurs dans l'ensemble pas pour
plutôt
tout
libéral. Mais...
non moi qui par ailleurs déteste la fête de la musique, je soutiens la préfecture dans cette démarche.
Je vois que ça ne vous surprend pas.
C'est
vous
ce dernier que la argument ceci interdise la fête de la musique.
Oui, à peu de choses près, oui.
Voilà, donc évidemment.
Oui.
Je pense qu'il y a plusieurs problèmes dans cette décision. D'abord un a priori extrêmement fort avec des soi-disant artistes qui en plus sont même pas là. Pour tout dire, j'avais pas entendu parler de ce concert avant que la préfecture décide de l'interdire, sur des a priori qui sont quand même très problématiques, d'autant que, pour le coup, je suis dans l'obligation de constater que c'est derrière Charles l'image que LFI a réuni des milliers et des milliers de personnes sans qu'il se passe aucun événement problématique. Donc, c'est très gênant. Ensuite, ce qui est encore plus gênant, c'est que dans la communication autour de ça, on met en cause les paroles des artistes qui seraient susceptibles de venir. Et ça, alors là, on va à l'encontre complètement même de l'esprit de l'art, de l'histoire de la France, de l'histoire d'ailleurs de l'art comme outil de contestation. Donc, que des artistes, dans les paroles de leurs chansons, mettent en cause la police, c'est vieux comme la France. Et je pense que parmi les chansons les plus dures, j'ai repris les paroles, hein, en voyant ces braves Pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore sous la forme de Maccabée. C'est Brassens et c'est 1952. Donc c'est l'histoire de l'art. Et ça veut pas dire d'ailleurs, parce qu'on les chante, qu'on pense vraiment ni ce qu'on dit, ni qu'on va le faire, pas du tout. Enfin, c'est une très mauvaise conception. Et par ailleurs, je trouve que la fête de la musique est un authentique patrimoine de la nation française, d'ailleurs qui s'est exportée, et il y a plein d'étrangers qui viennent vivre la fête de la musique, et donc c'est une bonne chose de la laisser vivre dans toutes ses spécificités, et surtout pas d'interdire ce concert.
Ça veut dire que c'est en train de devenir politique, la fête de la musique, ou ça l'était déjà peut-être, Charles ?
Ça l'était déjà. Non, je ne sais pas si c'était vraiment politique. C'est en vrai, je dis ça un peu pour la plaisanterie. Je pense que c'est une fête plutôt sympathique dans laquelle il y a souvent d'authentiques artistes qui font des choses de bonne qualité. Il y a pas de problème. Il y a notamment des DJ qui arrivent à réunir beaucoup de monde dans les rues de Paris, etc. C'est pas.
C'est pas le pire.
Je préfère la fête de la musique à la Nuit Blanche, par exemple. De la part de la France Insoumise, oui. Puis je vois que si vous voulez, la France Insoumise, il ne faut pas se leurrer. Ils sont un parti extrémiste parce qu'ils sont tout le temps sur une espèce d'ambiguïté. Vous savez, ça, c'est le propre des extrêmes, droite comme gauche. Ils sont en taquia, en dissimulation. Ils invitent Médine, comme si c'était innocent d'inviter Médine. Médine est un rappeur extrêmement controversé, qui a à son actif lui aussi beaucoup d'appels à la haine, beaucoup de. Ils auraient pu inviter Angèle, on vient de l'entendre. Comme par hasard, ils invitent Médine. Bon, ils invitent Assa Traoré. Moi, je suis avocat, j'aimerais que cette affaire Traoré, elle soit jugée depuis très longtemps, mais elle n'est pas porteuse de beaucoup d'apaisement depuis quelques années. Donc, ils invitent deux personnes dont ils savent très bien que ça va occasionner quelque chose d'un peu violent, en fait, si vous voulez. Et donc, je pense que il faut pas se leurrer quant à leur démarche. Je crois qu'ils cherchent, et d'ailleurs, ils l'ont dit même sur l'histoire, en une seconde, ils ont dit que si le RN gagnait, il y aurait l'insurrection, et ils semblent la souhaiter, etc. Donc, ils sont quand même dans quelque chose d'un peu bizarre.
Au-delà de cette dissimulation, comme vous le dites, la question des violences qui sont évoquées par la préfecture de police de Paris, non pas forcément place de la République, mais plus globalement, disant qu'ils vont devoir être extrêmement mobilisés parce que la fête de la violence, et c'est une des notes que l'on a détaillées ce matin, la fête de la musique est en train de se transformer en un prétexte à la violence pour certains. Ils parlent d'une délinquance d'opportunité.
Alors, on a déjà eu ce débat ici sur comment pouvoir gérer des foules festives.
On en avait parlé.
Vrai sujet.
Pour le PSG.
Autour du foot. Mais ça existe. On ouvre la saison des férias dans le sud-ouest. Il y a des gigantesques fêtes avec des milliers, des dizaines de milliers de personnes. C'est un métier. Je dis pas que c'est facile, hein, le rôle de policier dans ce genre de situation avec des foules qui sont excités par la fête, avec souvent de l'alcoolisation, ça n'est pas simple. C'est pour ça que je dis, c'est un métier, et je pense un métier très respectable. Mais c'est le savoir-faire de la police que de gérer ça. En revanche, sur le fait que la fête de la musique soit politique, l'histoire même de la fête de la musique est politique, ça a été rappelé
par Arthur Chevalier.
C'est une création de la gauche, c'est une création de Jack Lang. Et moi, je vais vous dire, j'ai un grand souvenir de la première fête de la musique, 1982, le Montreux-Fautionne, le confluent de la Seine et de Lyon, les deux ponts sont fermés, tout le monde danse sur le pont. C'est une réappropriation de la ville et ça se vit à Paris. Donc c'est vraiment un moment festif. Et donc de dire que les moments festifs, en fait, ils sont plus possibles, je le dis, je pense qu'il y a un problème justement d'anticipation et de gestion. Et notamment quand on dit et qu'on interdit un événement, on sait qu'on crée de la tension. Et là, c'est pour ça que je trouve que les arguments qui sont avancés et la méthode sont vraiment pas les bons. Charles.
Bon, là, ils interdisent pas la fête de la musique, ils interdisent en gros un meeting politique le soir de la fête de la musique. C'est pas tout à fait la même chose.
Mais c'est où la limite
C'est où la limite? Et ensuite dire qu'on n'autorise plus les fêtes, etc. À Paris, il n'y a plus que ça, des fêtes. C'est-à-dire que la ville, je suis désolé, est bloquée un jour sur deux parce qu'il y a une fête à la con qui a été décrétée par un sous-adjoint de la mairie de Paris qui a dit on va faire la fête de ceci, la fête de cela, nani, nana. Tout est prétexte à bloquer toute la circulation. Moi, je trouve que il y a des choses tout ne se vaut pas. La fête de la musique, c'est pas trop mal.
Allez, finalement, il aura fini par le dire. Allez,
mais c'est quand même le champion du Dufour.
C'est la seule fois de toute la saison que j'ai concédé un bon point à la gauche.
Cécile Duflo et Charles Consigny, tous les vendredis matin. Il est 7h57 sur RMC et RMC Story. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Il y aura aussi l'économie. On va parler argent et on va parler logement avec vous, Manu.
Et réunion de copropriétaires.
Oh là là, ça me fait vraiment envie. Allez, à tout de suite, 7h57.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.